Nous allons poursuivre par notre sujet principal, qui va porter aujourd'hui sur le thème de la libération de code informatique. Alors, l'échange a été enregistré jeudi 11 novembre 2021. J'ai profité de la présence de l'intervenant Sébastien Dino, qui est venu de Toulouse sur Paris pour le salon Paris Open Source Experience. Mais même si l'échange a été enregistré, n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Sébastien Dino est en effet présent ce mardi en direct sur ce salon pour répondre à vos remarques ou questions. Je précise aussi que nous avons enregistré chez moi et malheureusement il y a un léger sifflement sur les 18 premières minutes jusqu'à la pause musicale. Alors pris par la discussion, ni Sébastien ni moi nous avons pris conscience qu'il y avait ce sifflement pendant l'enregistrement. Donc je vous prie d'en m'en excuser, je vous souhaite cependant une bonne écoute.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons aborder aujourd'hui le thème de la libération de code informatique. Qu'est-ce qui peut pousser une entreprise à faire du libre et pas seulement à en utiliser ? Pour illustrer ce sujet, nous allons parler aujourd'hui de l'expérience d'une entreprise qui depuis 2002 développe et maintient un logiciel libre appelé Orekit. Notre invité, Sébastien Dino, expert technique pour la société CS Group, va nous parler de l'histoire de ce projet, des raisons de sa libération, de l'expérience acquise. Il nous parlera également de l'importance d'une gouvernance ouverte et aussi du fait que libérer un logiciel, ce n'est pas uniquement publier du code informatique sous licence libre. Alors Sébastien, bonjour.
Bonjour.
Alors on va commencer par une petite question introductive, tout simplement, de présentation personnelle et de CS Group.
Donc je suis Sébastien Dino, je travaille en tant qu'expert technique en logiciel libre pour CS Group, qui est une entreprise de services numériques qui œuvre essentiellement dans le domaine spatial, la défense, l'aéronautique, les transports et l'énergie. C'est une entreprise de 2400 personnes qui au départ n'a pas du tout été créée dans l'idée de développer du logiciel libre, mais qui a intégré le logiciel libre à sa stratégie et publie des logiciels libres et contribue à différents logiciels libres.
D'accord, très bien. Et tu es basé à Toulouse, ce qui expliquera peut-être un peu tout à l'heure quand
oui,
on parle de certains
clients. La coloration spatiale, le fait que je sois rattaché à la division espace et que j'habite à Toulouse explique la coloration spatiale de mon témoignage.
Exactement. Alors donc justement, le témoignage va principalement porter dans la première partie de l'émission sur un logiciel qui s'appelle Orekit. Alors même si l'objet de notre échange ne concerne pas le logiciel en lui-même, mais plutôt sa libération et ton retour d'expérience, présente-nous quand même en quelques mots ce qu'est Orekit.
Orekit, c'est tout simplement une bibliothèque de mécanique spatiale. Donc les mécaniques spatiales, ce sont les lois qui régissent les orbites des satellites notamment. Et donc Orekit permet de calculer des trajectoires de satellites, de les prédire ou de les restituer. Et c'est une bibliothèque qui, au fil du temps, est devenue la référence dans son domaine.
Alors c'est un logiciel qui est développé donc depuis 2002. Les personnes qui peuvent s'intéresser au sujet peuvent aller voir sur le site donc orekit.org. Alors, le kit, c'est avec un K. Oui. Le site est exclusivement en anglais ou c'est en français aussi?
Non, il est exclusivement en anglais. Tout est en anglais parce que c'est un logiciel qui, dès le départ, a une portée internationale, enfin dans un contexte international.
D'accord. Alors, c'est un logiciel qui donc existe depuis 2002.
Oui.
Mais initialement, ce n'était pas un logiciel libre.
Non.
À un moment, CS Group, donc ta structure employeuse, décide de le publier sous licence libre. Pourquoi tout simplement ce changement et à quelle date se fait ce changement?
Alors, en 2002, CS a décidé de développer sa propre bibliothèque mécanique spatiale parce qu'elle avait un souci. Elle avait d'excellentes compétences dans le domaine, mais elle était totalement inconnue parce qu'elle développait toujours des outils pour ses clients, dont les droits patrimoniaux étaient transférés en fin de contrat aux clients. Et donc, quand elle voulait répondre à d'autres appels d'offres, elle devait demander à ses clients l'autorisation d'utiliser le code qu'elle avait développé pour eux. Ça lui posait plein de problèmes. Donc en 2002, elle a pris la décision de devenir autonome en développant sa propre bibliothèque. Et elle s'est dit, nous allons rentabiliser notre investissement en pouvant répondre de manière efficace à des appels d'offres et éventuellement en vendant des licences d'Orekit. En 2008, elle a fait un constat, c'est que la bibliothèque existait. Elle était efficace, elle avait déjà été utilisée par exemple pour l'ATV qui était un cargo de ravitaillement de l'ISS, mais c'était sa seule utilisation opérationnelle et globalement c'était un échec commercial alors qu'elle était opérationnelle.
L'ISS c'est la station internationale.
Oui, la station spatiale internationale.
Voilà.
Et donc en 2008, une décision s'est imposée. Que fait-on d'Orekit? Est-ce qu'on la jette ou est-ce qu'on continue en changeant de modèle? Et là, CS s'est dit, ben non, elle est opérationnelle, elle fonctionne. On a déjà beaucoup investi dessus, donc, eh bien, on va la libérer. Et là, c'est posé la question de la licence, quelle licence adopter? Et une brique mécanique spatiale, c'est une brique essentielle dans un centre de contrôle, mais c'est une juste une brique qui s'insère dans une pile applicative. Et donc, pour donner toutes les chances de succès à Orbikit, CS a choisi une licence permissive qui permettait à ses clients de l'intégrer dans toute la pile applicative.
Donc, on va repréciser pour que les gens comprennent bien. En fait, Orbikit, c'est pas un logiciel libre autonome tout seul, c'est une bibliothèque, c'est-à-dire c'est une partie d'un logiciel qui peut s'intégrer dans un logiciel plus grand. Ça, voilà. C'est la première chose qu'on précise. Et que quand on parle de licence libre, la deuxième chose qu'il convient de préciser, c'est qu'il y a différents types de licences avec des effets différents dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Et en tout cas, CS Group en 2008 choisit une licence dite permissive qui ouais. permet quoi en particulier ?
Cette licence, qui est la licence Apache V2, permet à quiconque d'utiliser Orbikit, de modifier, comme toutes les licences libres, mais de l'intégrer à tout type de logiciel, y compris des logiciels propriétaires. Alors il y a un pari là derrière, c'est que les gens nous ont dit tout de suite, des gens se sont dit, mais si les gens peuvent l'intégrer dans des outils propriétaires, eh bien, ils vont le faire, mais on va jamais rien avoir en retour. On va pas avoir de contribution et les gens vont profiter des fruits de notre travail sans que nous on ait rien en retour. Et finalement, CS a réfléchi, il s'est dit, les industriels ne vont pas jouer. C'est intéressant parce que on a eu une image préconçue qui s'est avérée fausse par la suite. On s'est dit, les industriels vont effectivement l'intégrer et ne nous rendront rien en retour. Mais sans doute que les agences spatiales vont apprécier cette politique et vont jouer le jeu. Voilà, ça c'était l'idée que nous avions en 2008. Et assez vite, il s'est avéré que la vérité était un peu différente.
Alors qu'est-ce qui s'est produit en fait ?
Donc, déjà, on a commencé à avoir des contributions mineures qui nous sont arrivées d'un peu partout, y compris d'industriels.
Est-ce que tu peux préciser quel type d'industriel en
fait ? Des entreprises qui travaillent dans le secteur du spatial, d'accord. Des start-up, aussi quelques chercheurs.
D'accord.
Le pari de la libération s'est révélé très vite intéressant parce qu'en fait, dès 2009, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, nous a sélectionnés comme sous-traitant de premier niveau. Et quand elle a justifié son choix, elle a dit nous avons pris CS car ils ont fait Orbikit. Autrement dit, ils ont un savoir-faire avéré en mécanique spatiale. Ils publient leur code et on a pu l'auditer, c'est d'excellentes factures. Donc ils sont compétents. Et troisièmement, c'est la licence libre Apache. C'est exactement le genre de licence que nous apprécions. Donc c'est un partenaire de choix. Donc nous avons été recrutés comme sous-traitants. Donc c'est la première bonne nouvelle. En 2010, d'ailleurs, ça nous a amené à créer une filiale en Allemagne. Qui depuis a été étendu aux Pays-Bas.
Donc une filiale dédiée quelque part à ce développement de Orbikit et aux services autour.
Non, pas dédiée à Orbikit, mais qui œuvre dans le spatial. Et Orbikit a été notre marche-pied. En fait, c'est l'outil qui nous a permis d'arriver chez des clients tels que l'ESA, tels que Medsat. Ils nous ont connus à travers Orbikit et du coup, nous avons commencé à faire des études et des prestations pour eux.
Donc en fait, quelque part, ça a servi de vitrine technologique de votre expertise et vous a finalement, si je comprends bien, permis d'aborder de nouveaux clients et d'aborder de nouvelles zones géographiques comme l'Allemagne.
C'est exactement
d'accord.
Ce qui s'est passé. Alors les bonnes nouvelles ont continué, on a des gens qui se sont impliqués. En 2011, nous avons eu notre premier committeur externe. Alors expliquons ce qu'est un committeur par rapport à un contributeur. Un contributeur, c'est quelqu'un qui soumet un bug ou un patch, donc une modification du logiciel, une évolution du logiciel, mais qui n'a pas le droit d'écrire dans notre référentiel de code. Et donc il dit, je vous propose ça, est-ce que vous l'acceptez ? Et nous revoyons le code, et s'il correspond à nos critères de qualité, nous l'intégrons. Un committeur, c'est quelqu'un qui travaille sur le projet depuis un petit moment, qui a fait ses preuves, et nous avons confiance en lui, nous apercevons que chaque fois, il écrit du code de propre, bien documenté, bien testé, et au bout d'un moment, on lui dit, écoute, arrête de demander la permission à chaque fois, tiens, voilà les clés de la maison, et au même titre que nos développeurs, tu as le droit d'écrire directement dans le code du projet. Et donc là, on parle de committeurs externes, c'est-à-dire de gens qui ne travaillent pas pour CS, n'ont aucun lien contractuel avec CS, mais trouvent intérêt à contribuer à ce logiciel libre, et nous sommes arrivés à un niveau de confiance avec eux qui fait que nous leur donnons les clés de maison et ils travaillent, ils ont même niveau de droit que les développeurs de CS.
D'accord, donc ça c'est les premières contributions externes. Voilà.
C'était un expert indépendant. C'était un expert indépendant, voilà, qui est devenu notre premier.
Et il y en a eu d'autres après.
Depuis il y en a eu d'autres et maintenant il y en a 6. Committeurs externes, donc des contributions, il y en a beaucoup plus qui sont souvent ponctuelles, mais là des gens avec qui nous travaillons qui travaillent pour, par exemple, pour l'US Navy, pour la l'agence spatiale suédoise, voilà, des externes de différents pays, l'université technique de Berlin.
Donc c'est important de préciser, quand tu dis 6 personnes, c'est pas uniquement 6 personnes lambda entre guillemets, c'est quand même des gens qui travaillent pour des structures très importantes.
Tout
là, tu citais l'US Navy,
voilà, c'est le Naval Research Laboratory, donc la NRL de l'US Navy, c'est Airbus Defence and Space aujourd'hui, c'est l'université de Buffalo, de l'université technique de Berlin, donc la SSC, la Société Spatiale Suédoise. Donc voilà, ce sont des professionnels, ce sont des entités, et bon, nous reviendrons sur le sujet, mais voilà, 2011 est aussi un événement marquant, parce qu'en fait, le CNES, donc l'Agence Spatiale Française, a lancé un appel d'offres pour développer un logiciel dans lequel il a imposé à tous les répondants d'utiliser Orekit pour la mécanique spatiale. Donc, grande fierté de CS qui s'est dit waouh, ça c'est la reconnaissance. Le CNES impose Orekit à tout le monde.
Et je suppose en plus que CS s'est frotté un petit peu les mains en se disant forcément on va gagner le marché parce qu'on est développeur de Orekit.
Et oui, alors, tout à fait.
Et c'est ce qui s'est passé.
Malheureusement, nous avons eu une très grosse déconvenue, c'est que le CNES a décidé d'attribuer le marché à un tiers.
Ce qui est totalement permis.
C'est totalement permis, voilà, par la licence.
Exactement.
Voilà.
Okay. Donc comment CS a réagi, a pris ça?
Et alors, la déconvenue, enfin la douche a été froide, honnêtement, pour de la part pour l'industriel que nous sommes. Et très vite, en plus, nous avons compris que différents indices nous ont montré que l'industriel qui avait été en charge du marché et le CNES n'avaient pas vraiment joué le jeu communautaire.
On ne citera pas l'industriel, je crois, c'est ça.
Voilà. Mais en même temps, il suffit de voir qui a développé ce logiciel.
Oui, les gens chercheront.
Mais bon, voilà. Et donc, ACS...
Donc c'est une mauvaise nouvelle côté CS.
C'est une très mauvaise nouvelle. Le premier gros marché basé sur Orekit, nous le perdons. Et donc, moi honnêtement, en tant que libriste, j'ai une très vieille culture de libriste, je suis dans le domaine depuis 23 ans, je me suis dit, aïe, c'est la mort d'Orekit ça.
Oui, ce qu'on peut se dire immédiatement, c'est que si on est CS Group, on se dit, on va arrêter de le faire en logiciel libre, on va revenir à une version privatrice, propriétaire, comme ça on sera les seuls à pouvoir l'utiliser,
voilà,
en termes de support à des appels d'offres. Est-ce qu'il y a eu une discussion en interne au niveau?
Ah oui, il y a eu une discussion, parce que, évidemment, c'est remonté très haut jusqu'au niveau de la direction. Et à ma grande surprise et à ma grande joie, la réaction de CS a dit, vous savez quoi, on va aller plus vite, plus loin, on va mettre les bouchées doubles. Et donc, on a augmenté la cadence sur Orekit pour finalement se dire, on va garder à distance par notre contribution, par nos développements et par l'excellence de nos développements et par les nouveaux algorithmes que nous allons introduire dans Orekit.
D'accord.
Et nous avons augmenté le rythme de la machine. Et deux événements sont venus à ce moment-là nous conforter dans ce choix. D'une part, au même moment, alors que le CNES confiait le projet à un concurrent, un autre concurrent est venu nous faire une contribution majeure, quelque chose que nous estimions à 300 à 500 jours hommes de travail. Et ça a été une belle surprise pour nous, parce que je vous rappelle que l'idée que nous avions à la base, c'est que les agences spatiales joueraient le jeu,
mais pas les autres,
mais pas les industriels.
Voilà.
Voilà. Et il y a eu ça. Et il se trouve que cet industriel, en plus, nous a apporté une nouvelle vision qui a eu un impact sur notre architecture, tout ça, donc ça a évolué. Et d'autres industriels ont adopté Orekit à ce moment-là. Et puis on s'est aperçu que finalement, il y avait une petite idée qui avait germé depuis quelques temps. C'était celle de la gouvernance ouverte. de donner le droit aux utilisateurs majeurs qui s'étaient investis dans le projet, le droit à la parole, au même titre de CS, sur les décisions concernant Orekit.
Alors ça, on en parlera tout à l'heure, voilà. L'importance de la gouvernance ouverte après la pause musicale. Mais j'ai une petite question avant d'oublier. Orekit, donc depuis 2002, est-ce que vous avez évalué l'investissement humain dans le développement, ça c'est ma première question, à combien, enfin est-ce que vous l'avez évalué?
Oui, alors justement j'ai demandé un point avant cette émission et la réponse va te plaire. Alors, il se trouve qu'à l'heure actuelle ça correspond à 42 années hommes de travail.
Ah oui, donc c'est incroyable, c'est énorme.
Oui, c'est énorme.
Donc c'est un investissement. Tu nous as dit tout à l'heure effectivement que le premier gros marché ouvert Orekit est perdu. Est-ce que vous avez évalué le retour entre guillemets sur investissement, qu'il soit économique ou autre, par rapport à cet investissement en termes de développement?
Oui. Alors c'est très simple. Alors, 42 années hommes, c'est énorme. Et quand on fait le bilan du retour sur investissement direct, donc les demandes de formation, de développement spécifique, d'intégration, d'études sur Orekit, clairement, le compte n'y est pas. Orekit, à ce jour, nous coûte toujours plus cher à développer que ce qu'il nous rapporte de manière directe.
D'accord.
Ceci étant, quand on fait le bilan de l'outil, bon, déjà au départ, si on réfléchit à notre but initial, c'était de nous donner une autonomie en créant notre propre bibliothèque. Cette bibliothèque, nous l'avons. Elle représente l'état de l'art dans son domaine. Elle a une notoriété internationale, le but est largement atteint. Par ailleurs, alors nous avons une capacité à mesurer des retours sur investissement indirect, et typiquement, par exemple, le fait que nous soyons désormais contractant de premier niveau au niveau à l'ESA, ça a commencé avec
l'Agence
spatiale européenne. Donc ça a commencé avec l'ESA en Allemagne, puis aux Pays-Bas, puis l'Italie. Ça nous a ouvert des marchés. Aujourd'hui, la filiale en Allemagne et aux Pays-Bas, c'est 80 personnes. Nous sommes présents aussi chez EUMETSAT.
C'est quoi EUMETSAT?
EUMETSAT, c'est un fabricant de satellites de télécommunication. Okay. Voilà. Airbus Defence and Space utilise désormais Orekit et nous a connus à travers Orekit ils nous connaissaient avant, mais ils ont fait appel à nous à partir du moment où ils ont identifié Orekit. Mieux que l'identifier et l'utiliser, ils ont décidé de contribuer et ils ont même rejoint il y a deux ans le comité de pilotage du projet. Donc tous ces retours sur investissement indirects font qu'aujourd'hui, personne ne remet en cause le développement et le statut libre d'Orekit, même si en coût direct, le compte n'y est toujours pas.
D'accord, donc c'est important de ce que tu expliques, c'est le retour sur investissement indirect par l'augmentation de la notoriété, la reconnaissance de l'expertise technique.
L'ouverture de nouveaux marchés.
L'ouverture de nouveaux marchés, donc c'est très important. Avant qu'on fasse la pause musicale, parce que le temps passe très vite à la radio en fait, donc on parle là d'Orekit, qui est le projet quelque part majeur, on va dire, libéré par CS Group. Est-ce qu'il y a eu, donc rapidement là, est-ce qu'il y a eu d'autres projets qui ont été libérés avec le même succès ou avec un succès moindre? Peut-être des échecs.
Alors oui, CS a libéré depuis pas mal d'outils, contribue aussi à pas mal de logiciels libres développés par des tiers. Nous n'avons pas mis la même énergie sur les autres logiciels, mais vous pouvez aller voir notre compte sur GitHub, vous verrez que certains développements sont actifs et un ou deux de ces logiciels connaissent, à mon plus grand plaisir, un succès croissant, mais là c'est naturel, on n'a pas fait d'efforts spécialement pour créer la communauté, mais finalement, ben, ils sont de qualité, donc ils ont de plus en plus d'utilisateurs et je pense qu'ils ont un potentiel à terme supérieur à celui d'Orekit.
Alors on mettra les références sur la page consacrée à l'émission, hein, sur le site libreavoue.org et sur le site causecommune.fm. Donc juste avant la pause musicale, tu as dit que des personnes de CS ont aussi contribué à des projets tiers, donc pas développés par CS. Est-ce que cette nouvelle culture a été un peu initiée par le projet Orekit ou elle existait déjà avant?
Non, elle a été initiée par le projet Orekit et après très vite il s'est avéré que nous avions besoin de structurer un petit peu ça pour permettre tout ça, mais aussi gérer correctement la situation et donc 2012, nous sommes dotés d'une gouvernance. Alors là, tout à l'heure, nous parlerons des gouvernances des logiciels libres, mais là, c'est plus une gouvernance d'entreprise qui régit les règles pour contribuer à des projets libres et libérer des logiciels.
D'accord. Ouais. Mais écoute, on va parler de la gouvernance juste après la pause musicale. Donc, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter le morceau Two Bullets de l'album Two Bullets for the Devil. On se retrouve dans environ 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1. I've got two bullets for the devil and another devil and another one for myself. When the time will come, I'll be prepared. Satan made me gamble and lose my home, my wife. He tricked me into drinking to forget about myself. The evil bastard ruined my life and my soul.
D'écouter Two Bullets de l'album Two Bullets for the Devil, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Je précise que cet album est un projet parallèle du groupe The Freak Fandango Orchestra, un groupe espagnol dont on a déjà diffusé des musiques. Leur musique habituelle est plutôt explosive, un mix de folk, polka, gypsy. Et là, sur cet album, ce style est très différent de leur musique donc habituelle. Et une courte description que je reprends de leur site, c'est comme être dans un film de Sergio Leone en écoutant les Ramones et en buvant de la bière blonde pas chère. Je précise que les Ramones est un groupe des années 70 cité comme le premier groupe de punk rock selon Wikipédia.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis en podcast.
Nous allons poursuivre notre discussion donc avec Sébastien Dino, qui est expert technique chez CS Group. Nous parlons de libération de code. Et justement, tout à l'heure, je n'ai pas posé la question. En fait, quel est ton rôle exactement dans la libération du code de Racket, ou plus globalement, d'ailleurs, dans ces activités logicielles libres de CS Group?
Donc, moi, je suis le principal auteur de la gouvernance du logiciel libre de CS. Je conseille des équipes techniques et des clients de CS en matière de logiciel libre, que ce soit dans sa dimension technique, dimension juridique, sa dimension communautaire, voire sa dimension économique, voilà. Et concernant Orekit, alors je ne suis absolument pas l'auteur d'Orekit. Le créateur d'Orekit est Luc Maisonob. Il y a une équipe formidable autour de lui. Je pourrais citer Pascal Parot, Brian Casabonne, Maxime Journeau, par exemple. Et moi, mon rôle dans Orekit consiste à leur fournir une plateforme de développement, à améliorer, à proposer des outils à la communauté pour améliorer ses pratiques. Par exemple, j'ai introduit la forge, l'intégration continue, le forum, des choses comme ça.
C'est quoi une forge?
Une forge, c'est l'outil qui permet de gérer les développements, permet aux utilisateurs de signaler les bugs ou de demander des évolutions.
D'accord.
Et par ailleurs, je veille aux soins de la communauté. Donc je regarde un petit peu comment les développeurs de CS répondent, et je veille à ce qu'ils soient attentionnés envers la communauté, parce que la richesse d'un projet libre, c'est sa communauté.
Alors, on va en parler justement tout à l'heure, parce que c'est effectivement important. Et avant de parler de ça, mais c'est, en fait, c'est en introduction, hein, libérer du code informatique, finalement, est-ce que c'est juste une question technique? Est-ce que c'est juste publier un code libre sur un site web? Ou est-ce que c'est plus que ça?
Ah non, malheureusement, c'est bien plus que ça. Alors, beaucoup d'entreprises qui n'ont jamais fait de libre considèrent que l'aboutissement de leurs efforts, c'est la publication sur GitHub.
Alors GitHub, c'est une des forges qui existe.
C'est une des forges publiques
qui pose un certain nombre de soucis aussi éthiques, mais voilà. Il existe d'autres forges. Si vous voulez tester des forges, par exemple, vous allez sur la forge chapril.org, qui est service libre et loyaux, et on propose une forge qui est beaucoup plus éthique.
Voilà, exactement. Mais au final, quelle que soit la forge utilisée, ce n'est pas l'aboutissement, je dirais plutôt que c'est le début des choses. En fait, parce que s'il s'agit juste de publier du code, ben il faut pas se bercer d'illusions. Il ne va rien devenir si vous n'en assurez pas la promotion et si vous ne faites pas en sorte que vous ayez une communauté qui soit vraiment en bonne santé, qui évolue, qui grossisse. Donc vos efforts vont consister à favoriser l'éclosion et la vitalité de cette communauté. Donc il y a différents facteurs de succès pour un logiciel libre. Bon, bien évidemment, il y a les facteurs auxquels tout le monde pense, les facteurs techniques. Il faut un code de qualité, il faut une bonne documentation. Ça va de soi pour tout le monde, je pense. Après, il y a les facteurs juridiques. Le premier auquel on pense, c'est la licence.
Dont on a parlé tout à l'heure, avec les différents types de licences.
Voilà, de stratégies.
Et aussi, quand on réutilise du code, les licences qui sont utilisées par ces codes-là. Donc ça fait partie, je suppose, de ton travail d'expertise technique.
Tout à fait, voilà. Et selon le type de licence, on va pouvoir choisir, envisager des stratégies. Différentes stratégies. Donc
et en fonction de la stratégie globale de l'entreprise aussi.
Exactement. Et puis aussi la gestion des contributions, à qui appartiennent au final les contributions. Donc il y a différentes stratégies, notamment des accords de contribution ou du transfert de droits d'auteur, de droits patrimoniaux. Alors CS a privilégié les accords formels de contribution. Et plus important, les autres sont importants, mais on y pense naturellement. Mais celui auquel on pense rarement, ce sont les facteurs sociaux, les facteurs humains. Le problème, finalement, c'est que publier du code est facile. Ce qui est difficile, c'est de construire, donc, comme je disais, la communauté. Et il faut répondre à des attentes non techniques des utilisateurs et des contributeurs. Et il faut créer un climat de confiance. Parce que les gens ne vont s'investir dans un projet que, bon, évidemment, s'ils répondent à leurs besoins, mais aussi s'ils ont l'impression qu'ils sont écoutés, qu'ils peuvent avoir droit à la parole, que leurs contributions sont prises en compte, voilà, qu'on va répondre à leurs questions. C'est vraiment essentiel. Et la richesse d'un projet, c'est vraiment sa communauté, j'insiste. Vous pouvez avoir le code le plus fantastique du monde, si personne ne l'utilise, ben, il ne sert pas à grand chose. Le succès d'un projet libre ne se mesure pas à la qualité de son code, bien que celle-ci soit un facteur à la base. Il se mesure à son audience, à la base d'utilisateurs, à la base de contributeurs que vous avez. C'est ça qui détermine le succès d'un logiciel libre.
D'accord. Et donc dans cet aspect-là, finalement, ce qu'on en comprend aussi, c'est que finalement, la contribution à un logiciel libre pour des personnes, c'est pas forcément un monde où tout se passe bien, parce que finalement, c'est des êtres humains qui sont engagés, donc avec certains caractères, plus ou moins poussés, plus ou moins compliqués. Et en plus, comme c'est des contributions qui sont pour la plupart du temps à distance, se pose cette problématique-là. D'autant plus que souvent aussi c'est dans des langues que les gens ne maîtrisent pas forcément, parce que des projets internationaux comme Orekit, je suppose que les échanges sont principalement en anglais, etc.
Essentiellement,
et que tout le monde ne maîtrise pas l'anglais, et toutes les subtilités de l'anglais. Et donc dans ce rôle-là, tout à l'heure dans Orekit, tu as parlé de l'importance d'une gouvernance ouverte.
Oui.
Alors c'est quoi déjà avant de parler de gouvernance ouverte, c'est quoi une gouvernance d'un projet libre? C'est quoi ses objectifs?
Alors, la gouvernance vise à deux choses. Introduire des règles et être transparent vis-à-vis de ces règles. C'est-à-dire qu'en fait, les règles de fonctionnement du projet vont être expliquées de manière publique et servent de référence à tout le monde. Donc la gouvernance est une sorte de constitution du projet. C'est la référence, c'est ce qui permet à chacun de connaître les conditions d'engagement dans le projet. Donc c'est très important. Et cette gouvernance, elle fait foi. Donc une fois qu'on l'a annoncé, on doit s'y tenir. C'est très important.
C'est un peu le quelque part le contrat social d'engagement et de collaboration.
C'est exactement ça. La licence est le contrat
légal,
le cadre légal, la gouvernance et le cadre social, effectivement, de cette collaboration. Voilà. Il existe différents types de modèles. Il y en a trois. Historiquement, il y en avait deux qu'on appelait celui du dictateur bienveillant. Là, on a des pouvoirs concentrés
sur une personne.
Dans une. Ouais,
historiquement, c'est le noyau Linux, par exemple.
Par exemple, voilà. Et on a, alors c'est un modèle assez clivant parce que si ce dictateur ne sait pas faire preuve de discernement, d'écoute, de charisme, eh bien typiquement il engendre beaucoup de forks. Donc des forks, c'est des contributeurs qui sont pas contents pour une raison ou une autre et qui vont décider de reprendre les sources du projet, ce qui est totalement permis par la licence, et d'ailleurs faire leur propre variante dans leur coin. Ce qui est toujours une déperdition d'énergie, c'est dommage, c'est toujours regrettable pour un projet.
Alors après, historiquement, il y a des forks réussis, donc des LibreOffice par exemple vient d'un fork d'OpenOffice.org. Oui. Voilà, il y a des forks réussis. Mais en tout cas, c'est une possibilité effectivement qui permet que si on n'est pas content du fonctionnement d'un projet dans lequel on contribue, finalement, de créer son propre projet à partir du projet initial.
Tout à fait. Et parfois, le fork est salvateur, mais c'est toujours quelque chose qui résulte d'une crise. Et donc, si on peut éviter la crise
ou désaccord, enfin, c'est un peu la même chose, mais voilà. D'accord.
Mais donc, si on peut éviter, c'est mieux.
C'est mieux.
Voilà.
Donc, premier modèle de gouvernance historique, le dictateur ou dictatrice bienveillant, voilà. Même si en général c'est plutôt des dictateurs.
Voilà. Sinon, il existe un autre modèle historique qui est la méritocratie.
C'est quoi ça?
La méritocratie, c'est que l'on va distribuer le pouvoir aux gens en fonction de leur mérite. Et donc, plus les gens contribuent à un projet, plus d'énergie consacrée au projet, eh bien, plus on va leur donner pouvoir. Et donc, ils vont pouvoir devenir... comiteurs, comme je disais tout à l'heure, puis après rejoindre les comités de pilotage ou différents groupes qui auront été mis en place et voter et s'exprimer et participer aux décisions du projet.
C'est un peu aussi l'idée que c'est celui qui fait, la personne qui fait qui finalement a raison.
Oui,
voilà. Enfin, a raison. Alors, en tout cas, son avis va être pris en compte, son code va être pris en compte et la personne va pouvoir gagner des points qui va lui permettre de donner plus de possibilités sur le projet,
voilà.
De droit quelque part.
C'est ça. Mais ceci étant, la méritocratie a quand même quelques travers.
Oui.
C'est qu'on s'aperçoit dans la que le mérite des gens est rarement remis en cause. Parce qu'il arrive un moment où tout le monde sait ce que l'on doit à la vieille gloire, même si la vieille gloire n'est plus active dans le projet depuis 2 ou 3 ans. Et donc certains reprochent à la méritocratie de reproduire ou d'entretenir un mécanisme de caste, une oligarchie. Ça a entraîné la naissance d'un troisième modèle de gouvernance que l'on peut appeler plus démocratique ou que certains appellent libéral.
Libéral dans quel sens en fait?
Parce que on peut l'entendre de différentes manières.
D'accord.
Le modèle démocratique, c'est un modèle qui va organiser la fluidité temporelle des pouvoirs. C'est-à-dire qu'on va avoir des élections.
D'accord.
Avec des mandats qui sont limités dans le temps. Et on va effectivement avoir des instances de direction pour assurer le quotidien, mais les décisions importantes, mais surtout, pour toutes les décisions, on va faire appel à la communauté et chacun va avoir droit au vote, selon le principe une personne, une voix. Donc, toute la communauté active là, ce n'est pas un comité de pilotage qui va décider, c'est toutes les personnes actives dans la communauté.
Est-ce que, par exemple, le projet Debian, donc un projet de distribution logicielle libre, hein, GNU Linux et autres, est-ce que tu le ranges dans cette catégorie de fonctionnement?
Oui, pour essentiel. Mais d'ailleurs, le projet Debian, à une époque, était une exception dans le libre avec son contrat social.
Oui.
Il a été vraiment novateur. Mais pendant longtemps, c'était une exception.
Voilà. Alors qu'aujourd'hui, ça se développe de plus en plus.
Alors qu'aujourd'hui, on voit effectivement un besoin de communauté, finalement, de se retrouver d'être prise en compte. Et on voit que le modèle démocratique gagne en ampleur, gagne en succès. Et il y a même de nouvelles fondations qui apparaissent, qui poussent vers ce modèle-là. Parce qu'elles considèrent ces fondations, par exemple NumFocus, c'est la fondation emblématique de cette troisième génération de fondations, qu'un projet libre ne peut réussir que s'il a une communauté qui fonctionne bien.
Mais alors, NumFocus, c'est une fondation sur quoi, en fait? Sur un projet ou c'est une fondation dans...
Alors, c'est une fondation thématique qui vise l'informatique scientifique et la recherche, et qui se... je ne sais pas si j'ai le temps, je peux vous faire un petit récapitulatif. À mon sens, vous avez trois générations de fondations. Vous avez la première génération, parmi lesquelles on peut trouver la Free Software Foundation, la fondation Apache, l'OSI, qui se sont chargées chacune de sa façon de structurer le mouvement, de le conceptualiser, de le théoriser, mais qui finalement se sont révélées avoir peu d'intérêt pour les acteurs du libre. Comme ça ne convenait pas aux entreprises, on a vu apparaître une seconde génération de fondations dans laquelle on peut ranger par exemple la fondation Eclipse ou OW2 qui, en échange de cotisations parfois coûteuses, rendaient des services à leurs membres.
Alors leurs membres principalement entreprises.
Membres entreprises, voilà, donc ça a du support juridique, du support à la communication, au marketing, voilà, un porte-étendard, ils vont se présenter comme un porte-étendard. Bon, c'est très bien pour ces entreprises, mais quand on y réfléchit, les communautés ne trouvent toujours pas leur compte là-dedans.
D'accord.
Et c'est là que je parle d'une troisième génération de fondations. Alors, j'ai parlé de NumFocus, j'aurais aussi parlé de Open Infra Foundation ou d'autres, mais qui sont vraiment centrées sur les communautés et qui veillent à ce que les communautés fonctionnent bien.
D'accord. On mettra toutes les références sur la page consacrée à l'émission, hein, sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Donc on a bien compris l'objectif d'une gouvernance. Et donc c'est quoi une gouvernance ouverte telle qu'elle a été mise en place à Orakit, et je suppose qu'elle était telle qu'elle est mise en place dans d'autres projets?
Oui, alors une gouvernance, c'est le corpus constitutionnel du projet. C'est un équilibre à trouver entre choses que l'on doit absolument mettre dans la gouvernance, et ce qu'on doit mettre, ce sont les règles de fonctionnement, les rôles peuvent avoir les gens dans un projet, et comment on prend les décisions, et comment on peut arriver à obtenir un rôle particulier. On va pouvoir mettre après dans la gouvernance les motivations et les objectifs du projet pour le cadrer, pour dire bah voilà, on fait ceci et pas cela. Ça permet d'évaluer la pertinence de demandes d'évolution qui sont soumises. On peut mettre un code de conduite. Alors ça, historiquement, j'étais assez... Ma position personnelle était d'être assez contre les comptes de conduite.
Parce que... Alors rappelle ce que c'est déjà qu'un code de conduite.
Un code de conduite, c'est un ensemble de règles qui indique les comportements attendus et les comportements qui ne sont pas souhaités au sein du projet. Typiquement, du sexisme, du racisme, choses comme ça. Enfin, tout ce qui est négatif, tout ce qui ne va pas avec l'esprit de collaboration ouvert qui est nécessaire au succès d'un projet libre. Donc, les codes de conduite, notamment, veillent à l'inclusivité et veillent au bon accueil et au respect mutuel des gens.
En fait, c'est le cadre, enfin, c'est ce qui encadre les conditions finalement de contribution d'un point de vue humain et social pour que le projet soit le plus bienveillant possible et le plus inclusif possible.
Voilà, et donc historiquement je n'étais pas tellement convaincu de leur utilité, mais je dois bien reconnaître qu'au fil du temps, vu certains incidents dont on entend parler, eh bien je pense qu'aujourd'hui effectivement un code de conduite devient un élément nécessaire de la gouvernance. Et d'ailleurs Orakit n'en a toujours pas, parce qu'il se trouve que la communauté d'Orakit est exemplaire. Ce sont des professionnels de haut niveau qui ont le souhait de discuter, de trouver un terrain d'entente pour le bien d'Orakit, et pour l'instant il n'en a pas eu besoin, mais peut-être qu'un jour
ça pourrait évoluer
et Orakit pourrait se trouver désarmé. Donc je pense que il va falloir que nous réfléchissions à un code de conduite pour le projet et que nous intégrions ça à la gouvernance, ce qui nécessitera un vote. Voilà.
Ce qu'il faut préciser, que les codes de conduite, c'est quelque chose qui est finalement relativement récent dans l'histoire des projets libres et qui effectivement est lié à un certain nombre d'incidents, oui, on ne doit pas détailler ici, mais effectivement avec de comportements de personnes qui étaient totalement inacceptables. Et il faut savoir quand même qu'une seule personne qui a un comportement inacceptable peut pourrir l'ensemble du projet si on n'a pas les règles qui permettent de dire à la personne tu dégages parce que tu ne te comportes pas de façon correcte.
Et d'autant plus que si on n'a pas de règles de conduite, eh bien finalement on peut sembler être dans le subjectif.
Tout à fait.
Alors que là, il y a des règles qui sont annoncées. Voilà, donc c'est important. Et la gouvernance va pouvoir aussi traiter de l'utilisation des marques et des logos. Par exemple, si vous allez sur la Fondation Blender, sur le site de la Fondation Blender, qui est un logiciel de synthèse d'images, enfin de création.
Et qui fait des superbes films libres en plus.
Oui.
Et dont l'histoire de Blender, dont on a parlé dans l'histoire de Libra, dans l'émission Libre à vous, alors je sais plus dans quelle émission, mais vous allez sur libreavoue.org, vous faites une recherche, c'était initialement les logiciels privateurs qui a été aussi libéré.
Voilà. Et donc là, typiquement, ils ont une page où ils expliquent quelles sont les autorisations autorisées et interdites du logo, des marques. Voilà, c'est important, ça cadre, ça aussi. Vous pouvez aussi avoir le guide de contribution. Mais après, il y a un danger, il ne faut pas tout mettre dans la gouvernance. Parce que la gouvernance, comme je le disais tout à l'heure, c'est un socle constitutionnel. Et le socle constitutionnel, on ne le change pas sur un coin de table tous les 4 jours. Donc, il faut savoir équilibrer, savoir un petit peu à la manière des lois, mettre les grands principes et reléguer les détails d'implémentation à des guides tiers, par exemple le guide de contribution, typiquement ça peut être un document technique qui évolue en fonction des outils utilisés et qui ne doit pas remettre en cause la gouvernance
qui est le contrat social.
Voilà, et donc c'est un peu comme le fonctionnement de nos lois qui renvoie à des décrets d'application pour les modalités d'application.
D'accord. Alors le temps passe très vite. Il me vient une question quand même. Est-ce que dans ton travail, on a parlé tout à l'heure de Rekit et autres. Est-ce que dans ton travail, donc pour CS Group, je suppose que tu accompagnes des industriels ou autres dans le cadre de libération de code. Donc tu fais ce travail d'acculturation quelque part de l'entreprise par rapport à ces problématiques que la libération de code, c'est pas que publier du code, gouvernance, etc. Ça fait partie de ton travail, c'est ça?
Exactement. Le terme acculturation est tout à fait approprié. Il m'arrive, j'ai régulièrement des demandes d'industriels ou de laboratoires de recherche ou de consortiums qui veulent libérer un logiciel, ont eu vent de la culture de CS dans ce domaine et me demandent de les accompagner. Alors un accompagnement complet, ça peut tout simplement commencer par un alignement des partenaires, une présentation des principes, des facteurs de succès justement, de l'importance d'une communauté en bonne santé, d'une gouvernance. Donc on va aligner tout le monde sur le vocabulaire, sur sa compréhension, puis on va auditer le code pour vérifier qu'il est libérable, voir sous quelle licence il est libérable. Après on va se poser la question de la stratégie du consortium, du laboratoire, de l'entreprise, et du coup, en fonction de ces éléments, on va choisir la licence la plus appropriée, en fonction de ce qui est possible à l'issue de l'audit, et puis après, on va les aider à réfléchir sur la gouvernance, quel type de gouvernance ils veulent mettre en place, sont-ils prêts à lâcher prise, on va les accompagner dans cette réflexion, et après on peut même aller jusqu'à étudier l'offre de service des fondations. Ça m'est déjà arrivé qu'un client me dise, bon, moi à la fin je veux m'adosser à une fondation, donc quelle est l'offre de service des différentes fondations et je ferai mon choix, dites-moi un peu et je ferai mon choix.
Quand tu veux dire s'adosser à une fondation, c'est-à-dire quelque part déléguer ou en tout cas confier à une fondation externe finalement la gouvernance, l'évolution du projet, etc.
C'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu que le projet porté par une entreprise, il se place sous le pavillon d'une fondation qui en échange va avoir certaines exigences, va lui fournir certains services éventuellement, elle leur fournit des services mais d'un accompagnement, des guides, mais elle va aussi avoir des exigences sur le fonctionnement du projet mais ça rassure les contributeurs et committeurs potentiels parce qu'en fait ce n'est plus un projet piloté par une entité qui peut changer
d'avis,
de politique du jour au lendemain. Oui. C'est une fondation qui apparaît comme une entité plus pérenne dans sa volonté de faire du libre.
D'accord.
Voilà.
On va pas citer de noms évidemment de clients.
Non, souvent malheureusement je signe des accords de non divulgation.
Voilà, c'est ça. Donc en fait tu peux pas. Mais il t'arrive quand même de faire des présentations, de retours d'expérience en fait, oui, par rapport à ces pratiques. Est-ce que t'as déjà eu l'occasion de publier quelque part des documents ou des pas forcément détaillés, mais en tout cas sur les bonnes pratiques, sur retours d'expérience? Que ce soit de façon professionnelle ou sur titre personnel.
Alors j'ai un site personnel dont on pourra mettre le lien sur sur le site de Libre à vous, où je publie justement des articles sur typiquement la troisième génération de fondations dont j'ai parlé.
Donc j'ai parlé tout à l'heure.
Sur la nécessité d'être parfois plus subtil sur les licences que ne sont la majeure partie des projets libres qui annoncent une seule licence pour toutes les ressources. Alors quand on y réfléchit, ils ont des tas de ressources qui doivent être forcément régies par des licences différentes. Voilà, donc je publie de temps en temps des articles de ce style. Après, je n'ai rien publié de très fouillé sur les gouvernances. Ceci étant, on peut renvoyer à différentes initiatives qui sont en cours, d'élaboration. Et par exemple, on pourrait, qui existent même certaines pour plusieurs années, et il y en a une à laquelle je pense, qui est par exemple la Core Infrastructure Initiative. Enfin, les best practices de la Core Infrastructure Initiative.
Alors, pratiques.
Voilà, les bonnes pratiques. Alors, c'est un projet qui est issu de la Fondation Linux. Et c'est un processus d'auto-évaluation. Donc, vous avez un questionnaire et vous avez trois niveaux de maturité, trois niveaux de badge. Et donc, ils vont vous poser différentes questions. Est-ce que votre logiciel libre, par exemple, a un dépôt de code public? Est-ce qu'il a un guide de contribution? Est-ce qu'il a une gouvernance ouverte? C'est ça. Et donc, il s'agit d'être honnête, sinon ça vous sert à rien, donc c'est d'auto-évaluation, mais ce qui est très intéressant, c'est que ça vous permet d'identifier des trous dans la raquette de votre gouvernance ou de l'information que vous donnez à votre communauté ou du soin que vous prenez à votre communauté. Et par exemple, pour Orkit, il y a 2 ans, je me suis dit, on va regarder un petit peu ce que ça donne, et je pensais qu'on allait passer le premier niveau facilement, que c'était déjà fait, et je me suis aperçu qu'on avait des trous dans la raquette. Et donc, on a comblé ces manques, et depuis... on a regardé, et là, par exemple, on est à 89% des critères satisfaits pour le niveau 2 et 57% pour le niveau 3. Et donc, ça nous donne des guides pour améliorer nos pratiques techniques et envers la communauté.
D'accord, c'est très bien. Avant que je passe à la dernière question, parce qu'on arrive au temps consacré à ce sujet, est-ce que tu souhaitais aborder un dernier sujet ou rajouter quelque chose avant la question de synthèse finale?
Non. Peut-être qu'à la synthèse, parce qu'en fait,
on va passer à la question finale, comme ça tu pourras. Alors, je précise que tout de suite, avant d'oublier, qu'on aura l'occasion de faire d'autres sujets de ce type, sur la libération de code, sur les modèles économiques, avec une personne invitée ou deux personnes invitées sur un projet, parce que ça change un peu des débats qu'on a habituellement dans Libre à vous, mais ça c'est intéressant d'avoir un retour d'expérience à partir d'une histoire de libération de code. Et donc, la question finale habituelle que je pose pour les personnes notamment qui nous écoutent, en 2 minutes, c'est quoi les éléments clés à retenir selon toi de cet échange?
Les éléments clés, c'est très simple. Le libre, alors j'entends souvent parler de business model, de retour sur investissement direct, et parfois ces business models sont très durs à imaginer. Mais il faut comprendre qu'on peut vouloir faire du libre sans avoir un objectif de retour sur investissement direct et qu'il faut savoir évaluer les retours sur investissement indirect. Le libre, c'est rarement une histoire calme. On a vu, on peut avoir parfois des déceptions, des coups durs, mais c'est aussi de très belles histoires, de très belles collaborations. Et si on a un peu de volontarisme, on peut arriver à de très beaux succès. Une fois encore... personne ne remet en doute, par exemple aujourd'hui, le modèle choisi pour Orkit, et au contraire, on continue. Ensuite, plus globalement, quand on a parlé des gouvernances, je pense que il faut marteler que l'important, certes, sans code, on ne fait rien, mais le code, la publication du code, c'est le commencement, et que votre bien le plus précieux, c'est la communauté. Et donc, quand vous vous lancez dans le libre, vos efforts doivent consister à prendre soin de votre communauté, à veiller à son développement et à introduire un climat de confiance qui est un prérequis pour une collaboration saine et durable.
J'aime beaucoup cette fin sur l'importance de la communauté, notamment des contributrices et des contributeurs, et le climat sain, parce que c'est effectivement essentiel. Bah écoute, c'était un grand plaisir de t'avoir en interview. Alors je vais aussi rappeler, mais je l'ai même pas dit en introduction, mais je vais le dire en conclusion, que tu es de longue date impliqué aussi dans les communautés du Libre, vu que tu es toujours membre de l'April et que tu as été membre du conseil d'administration, vice-président pendant plusieurs années.
Ah, 13 ans. Pendant 13 ans, été membre du conseil d'administration. Bon, j'ai quitté le conseil d'administration en 2013. Je suis aussi un contributeur de longue date d'OpenStreetMap.
Exactement.
Et je contribue en dehors de mon travail de différentes manières au logiciel libre, oui, depuis 23 ans. C'est vraiment alors pour moi une raison, enfin quelque chose d'essentiel. Je suis heureux de participer au développement des biens communs numériques et à cette intelligence collective.
Eh ben écoute, c'était un grand plaisir. Donc c'était Sébastien Dino, donc expert technique chez CS Group. Donc c'est un enregistrement pas en direct, hein, fait à la maison en fait, hein, et donc il va être diffusé dans quelques semaines. Sébastien, je te souhaite une belle fin de journée.
Merci
et à bientôt.
Merci, bonne journée à tous.
Alors nous venons d'écouter cet échange avec Sébastien Dino qui était évidemment très intéressant, mais Sébastien est un grand professionnel parce qu'il a écouté l'enregistrement et il s'est rendu compte en fait qu'il n'avait pas répondu à une de mes questions. Comme on a un petit peu de temps, je vais par ma propre voix lui transmettre son complément de réponse qu'il a publié sur son blog. En fait, il a réalisé que je lui avais demandé à un moment ce qu'était une gouvernance ouverte, et comme il n'avait pas pleinement présenté jusque-là ce qu'était la gouvernance d'un projet, il a voulu d'abord préciser ce point avant d'expliquer ce que signifiait ouverte. Et en fait, il a simplement oublié de répondre à la question initiale, et moi j'ai oublié de le relancer. Et donc, chers auditeurs et auditrices, vous êtes peut-être un peu sur votre faim sur la notion de gouvernance ouverte. Alors je vais vous faire l'explication donc de Sébastien Dino à publier sur son site web. Et donc là, c'est Sébastien qui parle. Donc quand je qualifie d'ouverte une gouvernance, je ne veux pas dire que les documents qui la formalisent sont publics et que les conditions d'engagement sont connu de tous, c'est juste un prérequis. Une gouvernance ouverte est une gouvernance dont les règles permettent à des membres actifs de la communauté de prendre part aux décisions et de faire entendre leur voix sur un pied d'égalité, que ces personnes travaillent ou non pour l'entité qui porte le projet. Cette caractéristique est essentielle à l'épanouissement de la communauté et au bon fonctionnement du projet. Pourtant, les entreprises qui libèrent des logiciels ont du mal à lâcher prise et à réellement partager le pouvoir de décision avec des tiers. Cette réticence se comprend. Outre le fait qu'une entreprise aime bien avoir les coups des franges dans ses décisions, lorsqu'elle publie un logiciel, elle a bien souvent assumé seule jusque-là le coût humain et financier de son développement. Pourquoi devrait-elle impliquer des tiers dans des décisions et prendre en compte leur avis potentiellement contraire à ses priorités ou à sa vision du projet? Elle le doit pourtant, si elle veut la réussite et la large adoption de son projet. En effet, le succès passe par le développement de la communauté, et pour se développer, la communauté a besoin de se sentir bien accueillie et entendue. Elle a besoin de se sentir en confiance. Cela est vrai pour les utilisateurs et utilisatrices du logiciel, cela est encore plus pour les éventuelles personnes qui contribuent. Sans transparence, sans respect, sans confiance, sans droit à la parole, personne ne s'implique durablement dans un projet. Ce besoin a même conduit à l'émergence de gouvernances plus démocratiques que les gouvernances historiques, comme Sébastien l'explique dans son article intitulé « Évolution de la gouvernance des projets libres ». Le projet doit donc être en mesure d'accueillir dans ses instances de direction, ou parmi les personnes impliquées dans les prises de décision, des personnes extérieures, qui ne travaillent pas pour l'entité initiatrice du projet, mais qui ont montré un investissement substantiel et durable dans le projet. La gouvernance doit affirmer cette ouverture, elle doit en détailler les principes et les règles. Qui prend les décisions, comment, où peut-on prendre connaissance des décisions passées, des débats en cours ou à venir? Comment peut-on soumettre une question ou une proposition? Comment peut-on faire connaître son avis? Comment peut-on être impliqué dans les prises de décision? Quels sont les critères à satisfaire? Etc. Pour instaurer la confiance, la déclaration d'intention qu'est la gouvernance doit se traduire en fait observable par tous et toutes. Autrement dit, si un comité de pilotage anime le projet, ce comité doit accueillir des personnes externes, et si une personne exprime un avis divergent, cet avis doit être discuté et pris en compte s'il s'avère pertinent. Si on prend l'exemple du projet Orekit, dont on a parlé avec Sébastien. Sa gouvernance est publiée en ligne. Dans son comité de pilotage, dont les membres sont listés sur la page d'accueil, on trouve 9 entités différentes. À ce jour, CS Group, donc l'entreprise pour laquelle travaille Sébastien, continue à assurer la majeure partie des développements. C'est donc elle qui propose le calendrier et le contenu des nouvelles versions d'Orekit. Si ceux-ci font en général consensus, le jour où une personne membre du comité travaillant pour une autre entité a exprimé et motivé une réserve sur le contenu de la future version, CS Group a su l'entendre et se rallier à son point de vue, revoyant en interne ses plans. Jean n'a été ravi, Jean étant Sébastien. Le comité de pilotage n'était pas un simple bureau d'enregistrement de la volonté de CS Group. Plus tard, lorsque CS Group a délégué à un committeur externe, alors un committeur ou c'est une personne qui a le droit de modifier le code source d'un logiciel, donc plus tard, lorsque CS Group a délégué à une personne externe le soin d'une release d'Orekit, c'est-à-dire une diffusion officielle d'Orekit, Sébastien y a vu un signe fort. CS Group a dû revoir à cette occasion sa prérogative, créer une clé cryptographique non nominative pour signer les paquets et la partager avec un tiers, preuve d'une réelle confiance. Il y a 2 ans, un chercheur de l'US Navy a proposé sur le forum d'Orekit une évolution séduisante mais copieuse et qui cassait l'interface de la bibliothèque. Il a détaillé sa conception et s'est proposé de l'implémenter. Les personnes d'Airbus Defence and Space se sont montrées enthousiastes, tout en soulignant que la solution présentée ne répondait pas à certains de leurs cas d'utilisation. Après quelques échanges, le chercheur de l'US Navy a ajusté sa copie. Il s'est lancé et 2 mois plus tard, il a offert le fruit de son travail à la communauté. La seule intervention de 16 groupes dans cet échange, et la réalisation qui a suivi, a été « Your proposal is great », c'est-à-dire « Votre proposition est géniale ». Pourtant, CS Group a été la première à faire bon usage de cette évolution. Voilà ce qui se passe quand on sait faire confiance, quand vous savez faire confiance. Voilà, c'était un complément d'information de Sébastien sur la notion de gouvernance ouverte, donc publié sur son blog. Donc le blog, c'est pas l'abritude avec un s.net, mais vous trouvez toutes les références évidemment sur le site de l'April. Et je réitère mes remerciements donc à Sébastien Dino, donc expert technique chez CS Group, pour cet échange autour de la libération de code informatique. Et comme je l'ai dit, nous réaborderons ce sujet ultérieurement dans d'autres émissions.